Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il a bien fait toutes choses, dit le peuple. Ce peuple qui est impressionné par un miracle authentique, puisque ce jeune homme est né sourd et il est né muet. Alors vous me direz, il est muet parce que sourd. Eh bien non, pas seulement. Non seulement il n'entendait pas, mais il n'arrivait pas à articuler des mots. Il avait seulement la vue. Cela fait penser d'ailleurs à cette patience angélique d'une religieuse qui avait inventé un langage par le toucher pour des personnes qui sont aveugles et sourdes et qui donc ne peuvent pas avoir de communication avec l'extérieur. Elles sont forcément muettes car elles n'entendent aucun son et elles ne peuvent pas voir. Donc leur expression est extrêmement limitée. Et dans l'apprentissage, cette religieuse, avec la main et le toucher sur les doigts, avait créé un alphabet pour que cette personne puisse communiquer. Car même lorsque notre corps est malade, notre âme n'est pas en prison. Voilà donc notre Seigneur qui fait un miracle physique. Nous sommes en plein mois d'août, nous sommes en ce 5 août, à la veille de la Transfiguration, et nous sommes invités dans ces dimanches en vert, ces dimanches après la Pentecôte, ces dimanches qui sont en dehors des grandes fêtes, à replonger notre foi. Le fait de croire que Dieu est amour, qu'il n'est pas une simple intelligence créatrice, et qui nous a donné son Fils, qu'il est né d'une femme, d'une vierge, et que ce miracle fondateur de la virginité féconde et maternelle de la Vierge Marie doit interroger tous les êtres. J'ai passé une semaine à Rome, et ce qui est fort dans cette ville éternelle, c'est que nous pouvons voir tous les peuples qui se rassemblent dans cette ville. Oui, il est très impressionnant de voir toutes ces personnes qui ont des cultures et des histoires et des siècles d'histoire tellement différentes, tellement différents, et qui pourtant croient en l'incarnation. La remarque du peuple en voyant ce sourd, muet, retrouver l'audition et retrouver la parole, et ce qui est plus particulièrement miraculeux, puisqu'il peut parler alors qu'il n'a jamais entendu un langage, c'est donc que Jésus lui donne une relation toute particulière à ses frères et sœurs humains. Et la réaction de la foule est très juste, mais justement surnaturelle. Il a bien fait toutes choses. Il a fait parler les muets et il a fait entendre les sourds. Il parle bien de Dieu. Et cela fait penser à l'apôtre saint Thomas, qui, ne voyant pas Jésus ressuscité, ne croit pas qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, saint Paul nous rappelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Quand on lit toutes les lettres de saint Paul, on voit qu'il est particulièrement concentré sur la personne du Christ. Il admire la divinité et l'humanité de Jésus. Et en tant qu'homme, il est particulièrement impressionné de la preuve d'amour. Parce que Dieu, lui, qu'il considérait comme inaccessible, se soit fait homme, lui qui était un pharisien, il ne pouvait pas saisir humainement, et même dans sa culture religieuse, l'incarnation. C'est pourquoi lorsqu'il a cédé, oh, pour un simple miracle, Jésus lui est apparu. Mais oui, mais vous ne comprenez pas que ça peut être une illusion, que ça peut être une image de folie, que cela ne suffit pas pour croire. Non, saint Paul a cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas seulement un prophète. Et alors, il écrit « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi ». Voilà le cœur de notre religion. Ce n'est pas tant que Dieu existe, ce n'est pas tant que nous ayons un avenir, un futur, une espérance, que un jour nous ressusciterons pour une vie bienheureuse. Cela s'est promis aussi dans d'autres religions, qu'il y ait une vie après la mort, qu'on soit heureux après la mort, c'est même dans les religions égyptiennes. Mais de là à vivre l'amitié divine, non. Non. Et si vous lisez attentivement le Coran, il vous est promis le bonheur, mais pas dans la vie de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle les miracles ne suffisent pas, bien que nous les attendions. Nous voudrions avoir des personnes que nous aimons ou nous-mêmes guéries d'une grave maladie, guéries d'une manière instantanée et totale. Nous avons entendu parler de ces vrais miracles qui ont été authentifiés par des médecins et parfois même des médecins non-croyants que l'Église choisit pour le bureau de Lourdes et avec un tel sérieux que d'autres pays usent des compétences du bureau de Lourdes pour examiner des faits prodigieux, miraculeux. Mais cela ne suffit pas pour croire. En effet, lorsque saint Thomas voit Jésus vivant, est-ce que cela suffit pour croire en sa divinité? Le peuple, lui, soupçonne le prophète, l'envoyé de Dieu, puisqu'il fait des miracles. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Lorsque saint Thomas voit Jésus, qui lui montre les plaies de ses mains et la plaie de son côté, les cinq plaies qu'il a conservées de sa passion, il constate plusieurs miracles. Il le voit vivant alors qu'il l'a vu mort, descendu de la croix, même s'il était loin par rapport à saint Jean et les saintes femmes et la Vierge Marie. Il l'a vu au visage du méfié. Il a vu le sang couler de son corps. Et il voit Jésus avec simplement cinq plaies. Une semaine après, et un visage normal, c'est sa barbe intègre, sa chair intègre, et pourtant il se met à genoux et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'est pas seulement le Messie, il n'est pas seulement le prophète tant attendu, Jésus est Dieu. Et pourtant, saint Thomas vivra le martyr, saint Pierre et saint Paul vivront le martyr. Comme le dit saint Paul, Jésus est apparu jusqu'à 500 personnes en même temps. Mais sur ces 500 personnes, il dit, certaines sont encore vivantes maintenant. Et il écrit dans les années 60, 50-60. Le Christ restera 40 jours après la résurrection, dans les années 33. Donc cela fait bien 20 ans, 25 ans que ces personnes ont vu le Christ. Et il dit, dans sa sincérité, il y en a qui sont encore vivants et qui peuvent témoigner. Certains dorment. Quelle belle expression. Et c'est la raison pour laquelle cette expression a été donnée au cimetière. Ce sont des dortoirs. Le terme lui-même de cimetière signifie l'endroit où on dort en attendant la résurrection. Le Christ donc nous promet cette résurrection. Il nous promet que nous survivrons à cette vie terrestre, avec ces moments de bonheur, de santé, de prospérité, ou ces moments d'inquiétude, de maladie. Oui, la religion est très simple. Et certains disaient et disent encore que c'est l'opium du peuple. Mais bien au contraire, notre Seigneur ne nous ment pas. Il nous dit de porter la croix et de nombreux saints et de nombreuses saintes ont dû choisir le bien, choisir d'aimer à travers des obstacles et des contrariétés impressionnantes. Ils ont pardonné et pardonné encore. Ils ont constitué toute une civilisation qui a dépassé la civilisation de l'Orient et de l'Occident. Car il est bien paradoxal de dire que la religion chrétienne est européenne. Essayez de l'expliquer aux chrétiens d'Orient. Essayez de le dire à ceux qui ont été chrétiens avant nous. Essayez de le dire à ceux qui sont chrétiens de Syrie, dont les ancêtres ont été évangélisés et baptisés par les apôtres. Essayez de l'expliquer aux Arméniens, mais nous sommes bien heureux d'avoir été profondément touchés par cette bonne nouvelle. Et saint Paul nous exhorte à la garder, cette bonne nouvelle. Alors, tournons-nous vers la Vierge Marie, puisque nous avons commencé la neuvaine du 15 août. Nous allons la commencer bientôt, ces 9 jours avant cette fête, qui est la fête patronale de la France. La Vierge Marie est patronne principale de la France, avec saint Michel et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Eh bien, la fête de la France, c'est le 15 août. C'est dans son Assomption que Marie est reine de France. C'est dans sa victoire sur le péché, parce qu'elle est immaculée dans sa conception, jusqu'à sa dormition. Car encore une fois, les théologiens n'osent pas affirmer la mort corporelle de la Vierge Marie. Car elle est reine des martyrs au pied de la croix. Elle a déjà vécu la mort par le glaive que Siméon lui avait prophétisé. Et comme Immaculée Conception, elle n'avait pas à suivre la loi de la mort. Alors, dans la dormition de la Vierge Marie et dans son Assomption, nous avons l'une d'entre nous, une femme, une mère, qui est dans la vie divine, qui est la reine des cieux, qui est la reine des anges et qui est la reine de France. Dans cet été où nous sommes peut-être fatigués, il est peut-être finalement plus facile de prier le chapelet. Si vous êtes écroulé à 35 degrés à l'ombre, vous pouvez dire lentement « C'est Je vous salue Marie » qui nous relie à l'incarnation, qui nous relie à l'amour de Dieu, à cette réalité que nous sommes enfants et que nous sommes les frères et sœurs de Jésus, qui lui ne nous a pas menti, qui ne nous promet pas que dans cette vie nous ne serons jamais malades, que nous ne vivrons jamais la mort, mais il nous donne la grâce de vaincre nos péchés et d'être des instruments de paix. Ainsi, nous pourrons être véritablement les sujets de ce roi, les sujets de cette reine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.